On passe à table.
Chérie, on passe à table, on est toujours en compagnie d'Edouard Christodo, chef du restaurant Le W à Saint-Clair, et on prépare les fêtes de fin d'année en votre compagnie. On a déjà parlé des huîtres. Les huîtres chaudes notamment, ouais, qui sont une idée plutôt sympa pour ceux qui ont du mal à les avaler, ces petits crustacés. Et puis on vous a également appris à faire votre terrine de foie gras. Tiens, une petite question avant de passer à autre chose sur le foie gras. Il y a une grosse différence de prix entre le foie gras surgelé et le foie gras frais. Est-ce qu'il y a une vraie différence de goût?
Honnêtement, alors le foie gras, entre le... moi je trouve pas. Si la surgélation qui a été faite a été bonne, alors c'est clair que si vous faites ça à la maison, que vous prenez un foie gras frais, vous le mettez au congèle dans du papier film, oui, il va y avoir une différence de goût, parce que le problème, c'est que le froid va cuire le foie gras,
ouais,
le
lobe. Va abîmer la texture.
Après, honnêtement, maintenant, les industriels font ça très très bien. Non, moi, je... non.
Ouais, donc si on veut faire quelques économies, on peut partir sur du surgelé.
Bah, regardez surtout la provenance.
La provenance, oui.
C'est la provenance, parce que si après, je ne veux surtout pas critiquer les foie gras bulgare et tout ça, mais honnêtement, vous aurez toujours un meilleur résultat sur un vrai foie français que ces foies-là.
Si je dis pas de bêtises, le foie français, c'est uniquement les femelles, alors qu'en Bulgarie, il me semble qu'on passe mâle ou femelle sans forcément...
Toi, t'as lu le Wikipédia avant.
Non, mais j'ai de la mémoire, j'ai lu le Wikipédia il y a 2-3 ans, tout simplement. Non, mais je crois que j'avais vu des reportages là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment à la télé sur les foies gras.
Il y a des grosses polémiques sur le foie gras, c'est compliqué.
Donc voilà, mais c'est tellement bon. Allez, on laisse tomber le foie gras et puis
on passe aux volailles.
C'est l'un des best-sellers de cette fin d'année. Peut-être déjà, petite définition, c'est quoi la différence entre le chapon, la poularde?
Le chapon, c'est un coq qui a été masculin.
D'accord.
Donc, moi, après, là, c'est vraiment au goût de chacun. Clairement, vous achetez un chapon, une dinde,
une volaille de Bresse.
Moi, c'est clair que j'irais plus sur une volaille de Bresse, mais après, chacun, vraiment, c'est à son goût. Et puis, c'est vrai qu'une dinde, quand c'est bien cuit, tout est dans la... De toute façon, une volaille, c'est ce que je t'ai déjà expliqué, tu as fait le test à la maison, tout est dans la cuisson.
Dans la cuisson.
C'est tout simple. Donc, une volaille, si vous voulez réussir votre volaille et qu'elle ne soit pas sèche, il va falloir faire une farce fine. Donc une farce, parce qu'on farcit toujours nos volailles justement pendant les périodes de fête. Donc une farce fine, c'est la règle des trois. C'est-à-dire blanc d'œuf, volaille, enfin blanc de volaille, et blanc d'œuf... Ah zut, j'ai un trou. Ah bah, et crème liquide.
Ah bah voilà, je peux pas t'aider.
Donc, vous mettez le même poids en crème qu'en blanc, qu'en farce de volaille. Vous faites 200 grammes de volaille, par exemple. Donc, on va hacher nos 200 grammes de blanc de volaille, mais vous les hachez dans le robot vraiment très fin. Vous rajoutez votre crème, vos 200 grammes de crème, et en dernier, vous mettez vos 200 grammes de blanc. Il faut savoir que plus ça va tourner, plus ça va être fin, plus ça va être onctueux. Donc ça... Laissez-la tourner, oubliez-la, c'est pas un problème. Vous oubliez pas le sel, le poivre. Après, vous pouvez l'agrémenter avec des herbes, tout ce que vous voulez, ça, c'est pas un souci. Donc, on va mettre notre farce dans notre volaille, tout simplement. Et notre volaille, on va faire quoi? Allez, vas-y, Philippe.
On va la pocher,
exactement. Parce que si on poche notre volaille, ça va lui apporter un côté moelleux. Donc, vous allez faire un bouillon de volaille ou vous achetez de la poudre de volaille, de fond de volaille toute faite à la maison. Vous mettez ça dans une grosse cocotte, prévoyez quand même, parce que si vous faites une dinde, il faut quand même que le récipient soit gros. Vous amenez votre bouillon à ébullition et vous posez votre volaille dedans. Vous la laissez aller l'espace de 4-5 minutes, histoire qu'elle poche, à frémissement bien sûr, sans qu'il y ait une grosse ébullition. Et là, on va la sortir, on va la remettre dans le plat.
Et ça, c'est le plus compliqué.
Voilà.
Pour éviter de vous brûler,
je vous conseille deux choses. Ou une vraie fourchette de cuisine. Et effectivement, là, en piquant, on va pouvoir la retirer. Ou vous prenez ce qu'on appelle une araignée ou un écumoire. Et là, vous allez en dessous la volaille et vous la sortez. Faites attention de ne pas vous brûler.
Oui.
Vous la mettez dans votre plat au four. Vous mettez un morceau de beurre, une goutte d'huile, du thym, du laurier. Et donc, ce qui est bien, c'est que votre farce fine qui va être à l'intérieur va aromatiser votre volaille. C'est pour ça, mettez des marrons, mettez des herbes dans votre farce fine. De toute façon, ce sera que meilleur. Et avec le bouillon dans lequel on a fait pocher notre volaille, n'hésitez pas à venir arroser tout doucement votre volaille. Votre volaille, cuisez, ne pas la cuire. Ça, c'est une idée reçue, ne pas la cuire à 200 degrés ou à 210 degrés. Ça ne sert à rien. Cuisez-la à 160 degrés. plus longtemps dans le temps, vous aurez quelque chose de plus moelleux, surtout si vous l'arrosez beaucoup plus.
D'accord. Voilà. Mais si on la cuit à 160, est-ce qu'on aura quand même le côté
On aura le côté croustillant. Par contre, à la fin, il faut toujours mettre un petit coup de grill à la fin pour que le côté soit croustillant. Moi, j'ai fait un essai, par contre, il n'y a pas longtemps chez moi. J'ai acheté de la sauce soja, hein, une sauce qui commande X ou Y. Et au dernier moment, j'ai, avec un pinceau, dans le bouillon de volaille, j'ai mis de la sauce soja et j'ai laqué ma volaille avec. Et j'ai eu un effet croustillant exceptionnel.
D'accord. Alors par contre, si on fait ça, peut-être réduire la dose de sel. Parce que
oui, toujours. Ouais. De toutes les façons, moi j'assaisonne toujours à la fin. Toujours réduire la dose de sel parce que vous en avez déjà à la farce fine, vous en aurez dans le bouillon, ça l'est à la fin.
Voilà. Et ce petit conseil là, donc poché à la volaille, que je nous avais donné à l'antenne et j'avais testé, on peut aussi le garder pour toute l'année. Hein, quand on fait un poulet du dimanche, on pense à le pocher, ça prend pas beaucoup de temps.
Ça prendra pas plus de temps. Par contre, comparé à quelqu'un qui va mettre sa volaille à 210 degrés dans le four, votre volaille, les blancs risquent d'être secs. Le muscle des pattes, non, mais le blanc, ouais. Oui, il va se saisir et les chairs vont se refermer, la protéine animale va se refermer, vous aurez quelque chose de très de carton, quoi, clairement. D'accord. Donc, pochez-la et cuisez-la longtemps et doucement.
On reste avec les volailles et les chapons. Ce week-end, il y avait le marché aux truffes à Romans. Alors, vous y êtes peut-être allé, vous avez peut-être acheté une petite truffe, une grosse, si vous avez les moyens. Et justement, ces volailles de fin d'année, on nous dit souvent qu'il faut, alors je ne connais pas le terme technique, mais glisser des rondelles de truffes sous la peau.
Tout à fait. Alors, tout à fait. On peut tout à fait contiser. On appelle ça contiser. C'est mettre des lamelles de truffes sous la peau. Alors, ça s'appelle une volaille demi-deuil. Effectivement, on fait dans très haute gastronomie, c'était un plat qui fait partie d'Escoffier, exactement.
J'apprends mes leçons. Hein. Oui.
Et on pique au niveau des muscles, donc on fait deux clous avec de la truffe qu'on pique au niveau, et après on fait des rondelles. Et toute la rondelle, on vient lever très délicatement la peau de la volaille et on met nos truffes en dessous. Et justement, après, on la poche et on la fait rôtir au four.
Et pour un accompagnement qui soit un peu festif,
On va pas
faire des pâtes hein, pour le 31,
non.
Pour le 24.
Moi, je reste très simple dans les accompagnements. Alors justement, on parle de la purée de marron. Moi, la purée de marron, en ce moment, je suis en train de la travailler au restaurant. C'est hyper sympa. Je la travaille avec, par exemple, de la clémentine. Alors, c'est le truc, tu vas me dire, mais ouais, de la clémentine, ben, on est en pleine saison de la clémentine. La clémentine, c'est très bon. Et vous allez amener une petite acidité avec votre purée de marron qui va être juste exceptionnelle. Donc, vous avez un premier condiment. Après, moi, je vais sur la pomme de terre.
Ouais.
La pomme de terre, de toute façon, qui est cuite au four.
Petite purée de rate.
Ou une purée de pomme rate. Alors, à l'époque, quand j'étais justement chez Frédéric Anton, qui faisait la purée Robuchon, on faisait cette fameuse purée autant de beurre que de pommes de terre. Mais alors ça, c'est juste, voilà. S'il y a un moment dans la nuit,
je l'ai fait chez moi, elle est délicieuse.
C'est délicieux. Vous prenez tu prends 250 grammes de pommes rates, tu prends 250 grammes de beurre. Et on cuit nos pommes de terre à l'eau, et après, à la fourchette, on les écrase, et on incorpore en même temps qu'on écrase, c'est ce qu'on appelle une embeurrée, on écrase, on incorpore notre beurre. Alors là, vous prenez un beau beurre de baratte, je pense que dans la région, on a quand même ce qu'il faut, et là, vous allez vous éclater.
Ouais, donc tout simplement une petite purée, on peut s'inspirer un peu des Américains de Thanksgiving, ils ont l'habitude de faire les volailles, mélanger une petite purée de rate, petite purée de potiron si on veut, pour que ce soit joli dans l'assiette.
Tout à fait. Et puis là, vous avez les racines aussi, il ne faut pas les oublier, oui. Hein, parce que les racines, là, vous avez des crônes. En ce moment, ils ne sont pas chers, les crônes. N'hésitez pas, je veux dire, les cuire dans de la farine, c'est de la farine, du citron et de l'eau. Vous les cuisez, une fois qu'ils sont cuits, vous les faites sauter à la poêle. Vous allez avoir, une garniture que tout le monde n'a pas l'habitude de faire, et vous allez vous éclater parce que c'est vraiment très bon.
Ouais, là, ça commence à mettre l'eau à la bouche. Puis surtout, ce qui est sympa, c'est qu'on est quand même. Alors oui, on a parlé un peu de foie gras, mais on n'est pas dans du super lourd, quoi. On est dans...
On n'est pas de la volaille. Le foie gras, c'est toujours pareil. Si on en mange une tranche, entre en manger une tranche et en manger quatre...
Oui.
Voilà, il y a un fossé. Voilà.
Et puis il y a la différence entre le foie gras poêlé qui est quand même qui est très très bon, mais c'est vrai que si on commence avec le foie gras poêlé, on n'a pas forcément la place pour autre chose.
Moi, il y a un plat moi que j'aime beaucoup me faire, c'est pour garder les restes de foie gras, je fais une salade de foie gras. Justement, donc je fais une salade et je mets des copeaux de foie gras cru dessus. Donc je prends les épluches carottes, je mets au frigo mon foie gras et je fais des copeaux et je mets ça dessus comme ça. Et ça, c'est un régal après les fêtes.
Après les fêtes, ouais. Moi, j'en mets un peu sur les pâtes.
Ouais.
Voilà, comme du gruyère, je mets des petits copeaux de foie gras quand il en reste, forcément, parce qu'il n'y en a pas toujours dans le frigo.
Depuis deux ans, Philippe, quand même, commence à se mettre à la cuisine. Hein. Ça fait plaisir.
Ouais. Non, mais en tout cas, j'ai de plus en plus la théorie. La pratique, il manque encore un petit peu, mais justement, on est là pour ça, pour apprendre et on va continuer à apprendre et à préparer ce repas de fête dans un instant sur Chéri FM, juste après avoir écouté Sting.